Jusqu'à 10h, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Carl Bélanger au 104.7 Outaouais.
Ben oui, il est là, il est bien arrivé. Éric Lantier, bonjour.
Allô, Carl.
T'aimes ça, je fais des jeux de mots, toi.
Ah oui, moi, c'est ma passion.
Écoute, ce matin, tu veux nous parler d'éducation. Oui. Et ce qui t'inquiète, ce qui te préoccupe, ben, c'est la santé mentale de nos jeunes.
Oui, tout à fait. Jean-François Racine nous rapportait lundi sur les pages du Journal de Québec que selon une étude de l'Université de Sherbrooke, qui a été publiée en 2020, près d'un jeune sur deux âgé de 12 à 25 ans présente des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée. C'est énorme, ça, Carl.
Écoute. Oui, c'est significatif, là.
Tout à fait. Alors, pour aider les jeunes à briser les tabous sur la santé mentale et sur le suicide, la Fondation Jeunes en tête a mis au point des ateliers qui sont présentés dans les écoles. Et ce qu'on nous rapporte, c'est que c'est très bien accueilli par les jeunes. Maintenant, j'ai essayé de voir puis essayé de comprendre d'où vient la source de cette anxiété ou de ces dépressions-là qui s'installent chez les jeunes. Eh bien, par exemple, selon The Family Journal, le Journal of Economic Psychology, Child Psychiatry and Human Development, l'anxiété juvénile proviendrait dans un grand nombre de cas du stress des parents.
Les parents mettent trop de pression sur leurs jeunes et ou tentent trop de gérer leur vie.
Exact. Bien, ça, c'est un des aspects. Tu soulèves un très bon point, mais aussi leur pression personnelle qui fait qu'ils ont moins de capacité à endurer, à écouter, à être disponible relationnellement.
Parce que les parents sont pris dans leurs affaires.
Exact.
Problèmes professionnels, peut-être problèmes de couple.
Exact.
Et là, ben, la santé des enfants, le bien-être des enfants en subit les conséquences.
Oui, ils écopent. La deuxième raison, c'est que les pères PAIRS, là, ceux qui côtoient les jeunes, donc les collègues, les compagnons de classe, ont plus d'influence que les parents. Puis Gabor Maté et Gordon Neufeld, dans le livre « Retrouver son rôle de parent », l'expliquent si bien. Et j'aime la déclaration de Richard Bernstein qui dit « Pour un enfant, être aimé, ça veut dire être approuvé. »
On cherche le sceau d'approbation de ses collègues à l'école, de ses camarades de classe, dans nos comportements. Et à cause de cela, on fait des choix, et des choix qui ne sont pas toujours appropriés, ce qui en ajoute une couche.
Oui, et ces mauvais choix-là, souvent, quand on arrive à la maison, ça confronte les valeurs des parents.
Bien sûr.
Et ça augmente le niveau de tension. Et le troisième et dernier point, le manque de présence masculine en milieu scolaire et dans les foyers, ça joue un rôle sur l'équilibre mental des jeunes. Il y a plusieurs auteurs qui ont élaboré ça. Daniel Paquette, qui est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, Égide Royer, psychologue, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation à Laval, à l'Université Laval, Warren Farrell, qui est diplômé de l'Université de New York, et évidemment, Guy Corneau, psychanalyste et auteur à succès du livre « Père manquant, fils manqué ». Et ça, c'est un phénomène. Moi, écoute, j'ai travaillé dans les écoles. J'ai été directeur d'école, j'ai travaillé dans les écoles privées, publiques, rurales, urbaines, et la présence masculine se fait rare. Et ça, c'est un problème parce que les jeunes ont besoin de présence masculine. Je vais te raconter une anecdote.
Ouais.
J'avais 20 ans. J'étais à l'Université du Québec à Montréal. Mon premier stage. Je rentre dans l'école. Toutes les jeunes étaient autour de moi.
T'étais une bizarreté dans l'environnement scolaire dans lequel ils évoluaient. T'étais un homme.
Exact.
Puis c'était juste des madames.
Ben oui.
Qui était en position d'autorité ou à peu près.
Et puis, il y avait tellement un gros attroupement qu'à un moment donné, ça m'a fait basculer. J'ai tombé sur un jeune, puis le jeune s'est cassé le bras.
Oh boy!
Mon premier stage, imagine.
C'est une bonne note, ça, pour ton stage. Tu rentres dans le stage, tu casses les bras. Ça va bien?
Ben oui. Mais juste pour dire que pour les jeunes, c'était une école primaire, la présence masculine, là, Ça faisait un tollé. J'étais comme une rock star. Je sortais là, pour surveiller dans la cour d'école. On peut en faire des blagues, on peut en parler à la légère, mais il reste que néanmoins, ça relève, disons, une dimension qui est très significative. Dans les écoles, on a besoin davantage de présence masculine. Et là, le gouvernement va devoir réagir à cet effet.
Attends un peu. Là, c'est parce que, oui, c'est bien réagir, mais comment? Je veux dire, est-ce que tu imposes des quotas aux écoles pour engager plus de profs masculins? On est dans l'inverse de la tendance généralisée là, au niveau de l'embauche. Comment tu fais pour forcer les hommes à aller dans les écoles, essentiellement, là, mm-hmm. pour essayer de combler cette lacune?
Bien, premièrement, de faire des clips, par exemple, qu'on va publier sur les réseaux sociaux sur l'impact des hommes qui sont déjà présents, l'impact qu'ils ont, des témoignages qu'ils vont rendre sur des vies transformées, sur des progrès significatifs qu'ils ont pu voir dans leur classe, dans leur milieu, voir, il y a un côté enrichissant, qu'on n'est pas là juste pour transmettre des notions, mais d'avoir une influence positive sur les jeunes.
J'aimerais ça vous entendre là-dessus, chers auditeurs, chères auditrices. Est-ce que vous pensez, vous, que dans vos écoles, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de présence masculine? Est-ce que c'est ce que vous constatez? 9-8-9-8-5, vous avez des commentaires, des réactions à ce qu'Éric Lancier vient de nous dire. Ça serait très apprécié. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, mais aussi ce que vous expérimentez dans la vie de tous les jours et dans le quotidien de vos jeunes à l'école. On passe de l'éducation à la santé maintenant, Éric, si tu veux bien. Mm-hmm. Les urgences craquent de partout. Hein. Yannick nous en parlait hier. 300% à Maniwaki, 200% ailleurs, au-delà de 100% partout. On est dans le rouge, ça craque de partout. C'est la même chose aussi à l'extérieur. Hein. On l'a vu du côté d'Ottawa. Mm-hmm. À Calgary, on a vu qu'ils ont mis des containers à l'urgence pédiatrique parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ça craque de partout.
Mm-hmm. Oui, bientôt, il va falloir acheter des roulottes là, pour entreposer les malades. Ça n'a pas de sens. L'agence France Presse nous rapportait sur les pages du journal Le Droit que les urgences britanniques là, sont en train de perdre le contrôle. Le Royal College of Emergency Medicine, c'est eux qui établissent les normes de formation puis qui administrent les examens pour les médecins d'urgence, a estimé qu'en raison des attentes interminables et de carences dans les soins d'urgence, qu'il pourrait en moyenne y avoir 400 patients par semaine là, qui sont retardés de service.
C'est énorme.
Ben oui. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont dû attendre plus de 12 heures avant d'être pris en charge aux urgences. Alors, maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ouais, mais il me semble ça ressemble pas mal au Québec, ça. »
Ben oui, ben c'est ça. C'est un phénomène, on a l'impression que c'est un phénomène mondial, là, mais oui. Disons que c'est un autre exemple de comment ça va pas. Mais la question, c'est comment on peut aller, comment ça peut aller, comment on peut régler ça, notamment ici au Québec.
Bon, OK. Ben justement, j'ai été voir les recommandations d'une économiste, Maria Lely-Sha, elle qui proposait 6 recommandations. Alors, j'ai répertorier, disons, les 3 plus simples, hein, pour ne pas rentrer dans trop de détaillites, là. Et elle, ce qu'elle propose, c'est régler une fois pour toutes la transmission des informations par technologie de pointe. Je t'explique. Moi, là, mon médecin est à Laval. Moi, ce que je reçois, c'est d'un fax, un papier là, qui a été numérisé par PDF, qui est envoyé par fax, qui est transféré en courriel. La technologie, là, juste de transmission d'informations...
Mais on l'a vu au début de la pandémie, hein, où on recevait les statistiques COVID par fax puis qu'on les transmettait par fax. Ça, c'est pas normal.
Non, ça, c'est pas normal. Ça devrait être une priorité numéro un. Déjà, tout informatiser que dès qu'il y a une ressource en santé qui a besoin d'une information, elle est dans une banque de données sécurisée. 2, permettre aux Québécois de souscrire à une assurance privée qui couvrait des soins de santé qui sont... soit déjà couvert par l'assurance publique ou pas couvert, pour créer un peu de compétition dans certains secteurs pointus pour désengorger les hôpitaux ou les services de santé. Et 3, c'est lui que je préfère, eh bien, augmenter l'effectif de professionnels de la santé par 3 réformes. Atténuer les obstacles réglementaires à l'entrée du marché du travail, par exemple pour ceux qui sont diplômés à l'étranger.
Oui.
C'est pas normal qu'un médecin qui, par exemple, qui a été formé en Ukraine doit tout refaire ses cours ici.
Non, mais c'est parce que nos malades sont différents, tu comprends?
Ah, ben oui.
Hein, les maladies au Québec, là, c'est société distincte.
Ben oui. Ben, tu y fais faire un stage qui est suivi par un maître médecin. Puis s'il y a des lacunes ou des mesures d'appoint, il suit un cours spécifique, puis s'il réussit, bon, il s'intègre. Éliminer les quotas dans les facultés de médecine. Ça, là, si on avait plus de médecins, on va dire oui, mais là, ça veut dire qu'il y aurait des médecins sur le chômage. Non, il y a des médecins qui se transformeraient peut-être dans une autre spécialité, qui irait spécialisée, par exemple, et ça créerait beaucoup plus de latitude. On ne serait pas menottés.
Mais par certains, les ressources. Certains répondraient que la raison qu'il y a des quotas, c'est pour s'assurer de l'excellence des candidats et qu'on ne prenne pas n'importe qui. Autrement dit, qu'on n'ait pas n'importe qui devienne médecin et qu'on ne se ramasse pas avec des médecins qui ne sont pas bons. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Bien, ce que je réponds, c'est justement, s'il y en a qui sont disponibles, s'il n'est pas bon, ça va être plus facile de le mettre à la porte ou de lui dire « Réforme-toi, va performer ailleurs dans d'autres secteurs. » Et le dernier point est mettre en place un permis d'exercice pan-canadien. Donc, ça permettrait que, par exemple, quelqu'un qui travaille en Ontario pourrait travailler au Québec ou pourrait travailler au Nouveau-Brunswick à ce moment-là pour qu'il puisse avoir plus de déplacements, plus de flexibilité.
Les barrières interprovinciales, et c'est vrai en santé, et c'est vrai en construction, et c'est vrai en éducation, et c'est vrai dans plein de domaines, sont parfois plus difficiles à traverser que les barrières transfrontalières à l'international pour les gens qui viennent du Québec, entre autres. Merci beaucoup, Éric.
C'est un plaisir.
On s'arrête pour une pause. On revient avec Jérôme Gaudreau, qui est président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide.
Pour réentendre les entrevues de Carl Bélanger, fm1047.ca.